Balade avec Léa Muller et Jean-Luc Toulec.
Moi, je serais assez d'avis qu'on essaye de s'aventurer dans ce bois-là. Qu'on peut essayer. Putain, mais au moins, on sera un peu en pleine nature, quoi. Mmh. On peut essayer ça. Si ça vous va.
Ouais,
c'est bien. On essaye ça.
Ouais.
C'est plutôt, du coup, dans l'aéronière.
Et là, on a l'impression de rentrer dans un autre monde.
Ah oui, non, mais c'est fou. Et ouais, mais c'est sûr qu'on découvre tout ce paysage là qui est complètement caché et auquel on n'a pas du tout accès depuis le chemin de
la. Bah oui, parce qu'en fait c'est des anciens bassins d'extraction de granulats, quoi. Pas de quand elle date ces gravures là.
Et ben non, alors après c'est forcément après les années 50. Parce que, enfin, en tout cas, les premières gravières, elles sont vraiment plus situées près de Rennes. Parce que c'est en fait ce qu'on utilisait pour la reconstruction de la ville. Du coup, j'imagine que Champcor doit se situer entre les années 50 et les années 70, un truc comme ça. On a des cartes de ça.
Ouais, ça doit être des années 50, quoi. Ça nous emmène, tu vois. Ça doit donner une idée à peu près de la période d'extraction et du retour à la nature. Les arbres ont poussé, les hérons se sont installés parce que c'est un milieu très protégé. Et effectivement, lorsque la route départementale a été créée, là, ben, elle est passée pas au cœur, justement. Le choix était quand même d'essayer de ne pas passer au cœur de l'aéronière, mais...
Elle impacte quand même énormément.
Elle impacte, mais en fait, ils se sont adaptés, la preuve, hein, ça forme une... Ils sont toujours là, quoi. Je pense qu'on est à 90 nids, quelque chose comme ça. Ça bouge pas tellement en fait en nombre de nids. Mais il y en a, il y a trois espèces en plus. Là t'as tout là. T'as. Hein,
ouais,
c'est là, c'est l'ambiance de nature. Hein. Ah ben il manquait plus les clicots.
Non mais c'est un peu la réalité de ce territoire-là.
Ouais, c'est la réalité, c'est qu'il y a ce double... Il y a ce côté, en fait, on peut trouver des espaces hyper nature, quoi, où il y a même... Il y a toujours un fond sonore de voiture, plus ou moins, quand même. Mais... Et puis des espaces très, très anthropisés, quoi. C'est ça qui est assez...
Ouais, qui se côtoient.
Ouais. Qui se côtoient, quoi.
Qui se côtoient un peu malgré eux, d'ailleurs. Alors, du coup, c'est par là qu'on va commencer à trouver des entrées, mais moi, ça fait un moment que je suis plus retournée sur le site, du coup, il va falloir se repérer.
Bah, c'est vrai que là, on est pour l'instant dans les ambiances un peu linéaires, même carrément linéaires, hein, du bord de canal. Là. Et à droite, on voit bien les zones boisées, les anciennes gravières qui sont... apparaissent déjà beaucoup plus sauvages, quoi.
On est entre la zone canalisée de la Vilaine et son bras sauvage. Ouais. Et toute cette partie là centrale de ces étangs. Et du coup, c'est qu'ils sont complètement enclavés. Enfin, c'est une situation assez particulière sur la Vilaine, en fait. C'est pas pour rien aussi que les hérons ont trouvé autant de calme à cet endroit-là, quoi. Et alors définitivement, il faut qu'on trouve un accès et je pense que là, on y arrive plus ou moins. En fait, là, on arrive dans un paysage complètement mouvementé en termes de topographie, on peut dire. Enfin, du coup, il y a plein de, comment on peut dire ça, de buttes de terre sur lesquelles on repoussait des arbres. Et en fait, on aperçoit déjà au loin, finalement assez proche de nous, des premiers étangs. Et là, on sent vraiment le mouvement des carrières, quoi.
C'est vrai que quand on quitte le canal, on a quand même l'impression de rentrer dans un espace beaucoup plus sauvage. Et pourtant, c'est un espace qui est issu de la main de l'homme, hein, en partie. En partie de la main de l'homme et en partie de la dynamique naturelle. Parce que, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'on y trouve des résineux. Alors qu'a priori, les résineux, naturellement, c'est quand même pas ça qui pousse. Ce qui pousse naturellement, c'est des érables psychomorphes ou des frênes ou des espèces comme ça qui colonisent de milieu, ce type de milieu naturellement, les saules.
J'ai passé beaucoup de temps en fait à chercher des chemins, ou en tout cas à me frayer des chemins là, dans ces espaces comme ceci, quoi. parce que l'idée, là, quand on a commencé à travailler sur le projet de la Vilaine, c'était vraiment d'essayer de trouver des endroits qui sortent du chemin tout tracé de la voie de halage. Et du coup, je trouve qu'il y a un enjeu de qu'est-ce qu'on montre, enfin qu'est-ce qu'on donne à voir et qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde comme espace de nature sauvage, quoi, même sans intervention de l'homme. Et peut-être que c'est bien finalement s'il y a plutôt personne qui se balade là, quoi.
Sortir des sentiers battus, voilà. Et en même temps que je dis ça, je dis mais si tout le monde sort des sentiers battus, il n'y aura plus d'endroit refuge. Un terrain d'aventure pour les gamins, c'est souvent les parents qui ont plus peur que les enfants à aller dans des espaces comme ça. Il y a des buttes, on peut sauter, on peut voilà, il y a des arbres morts ici ou là, on peut passer dessous aussi, des arbres morts, c'est pas un truc très habituel dans nos forêts. Hein. Ben là, comme c'est pas forcément géré, ben, il y a des arbres qui meurent, qui tombent, et puis ben, ils restent sur place. Alors ils bloquent un peu le passage, mais par contre ils font vivre toute une vie autour de leur mort. Leur mort génère toute une vie hein, pour la décomposition, donc c'est...
Cette espèce de paysage un peu marécageux, un peu énigmatique.
Ah bah ça fait un petit peu mangrove en fait, ouais. Ça rappelle un peu les mangroves de Louisiane et autres régions avec des saules qui tombent dans l'eau là et qui vivent quand même étant avec une partie des branches tombées dans l'eau. Il y a le troglodyte là qui est là. Troglodyte, là, c'est un petit oiseau tout à fait sympathique qu'on trouve aussi dans les jardins. Mais dès qu'il y a des milieux comme ça, un peu avec des broussailles, ça lui va très bien, quoi. Donc c'est vraiment un... tout petit, avec souvent la queue relevée. Et il chante, pour un oiseau de cette taille, il chante particulièrement fort. Toujours le même chant, là, assez puissant. Il marque bien son territoire, en fait, hein, parce que le chant, c'est bien le marquage d'un territoire. Hein. Donc il est bien chez lui, là. C'est bien d'avoir des espaces un peu différents d'un point de vue écologique. Par exemple, une petite mare comme on a là, c'est assez typiquement un lieu de reproduction pour la salamandre. Pour les batraciens de manière générale, et en particulier la salamandre, qui est une espèce des bois hein, qui, là, en ce moment, est sous les souches ou pendant la journée. Quoi. Elle vit sous les souches ou dans les pierres ou dans les tas de terre ou au pied des arbres.
Juste à côté, on a un autre plan d'eau qui est beaucoup plus grand, qui n'a pas du tout la même couleur. On est sur des teintes hyper différentes, des verts, des marrons. C'est assez beau.
Ouais, c'est d'un point de vue écologique, c'est assez complémentaire.
Et là, un tout petit peu plus loin, on a même une mare qui est complètement recouverte de lentilles d'eau.
On a des charmes là aussi, on a beaucoup de charmes. Le charme, il se reconnaît à son tronc cannelé, son tronc qui n'est pas toujours bien rond, au contraire. Plus il vieillit d'ailleurs, plus il est cannelé, plus il est de forme bizarre. Et c'est un arbre assez... Moi j'aime beaucoup la forme de...
Le charme d'Adam, c'est charmes. Le
C'est ça la manière de reconnaître les feuilles. Tiens, on en a là. C'est que le charme a des feuilles avec des dents, alors que le hêtre a des feuilles avec des poils. Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Voilà, il suffit de retenir ça. Pour retenir la différence entre le charme et le être.
On l'adore, on l'adore, petit dicton.